Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes avec Céline et Karine. Bonjour.
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 Je m'adresse à l'une de vous. Est-ce qu'on peut résumer ce qu'est le projet Territory Lab ?
Eh bien, c'est un projet qui est né déjà il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui s'étend sur l'ensemble de la vallée de la Drôme. Du début jusqu'au, enfin, de Cré à peu près, jusqu'au Diwa. C'est parti d'un constat que sur la vallée, il y a énormément de choses qui sont innovantes ou en tout cas assez exceptionnelles qui se passent. Des projets qui ne ressemblent à rien d'autre, où il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Et que tout ce qui se passe ici, ça pourrait inspirer des gens qui sont à l'extérieur et qui souhaitent créer des choses un peu innovantes aussi, ou en tout cas qui souhaitent s'inspirer. Et de ce constat est partie l'idée de faire venir ces gens de l'extérieur pour voir ces projets, pour rencontrer les gens et puis s'inspirer et peut-être apporter chez eux des choses pour changer un petit peu leur façon de voir les actions qu'ils mènent sur leur territoire, dans leurs entreprises, sur leur communauté de communes, on ne sait pas trop qui va venir, enfin voilà. Et donc ça c'est le début du projet et... Ensuite, après, on s'est dit, mais finalement, c'est bien, il y a des gens de l'extérieur qui vont venir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont ici ? Et c'est comme ça qu'est née, en fait, l'idée aussi d'apporter de la compétence de l'extérieur, pour le coup, des experts sur des sujets particuliers, en lien avec la thématique piloter des organisations vivantes, dans un monde en mutation. Donc, autour de cette thématique vont être organisées, sur l'ensemble du projet, en tout cas pour cette année, 3 conférences et 3 masterclass. La première a eu lieu sur l'économie circulaire. La deuxième a lieu au mois de juillet, les 5 et 6 juillet, sur réinventer les organisations. Et la troisième aura lieu à la rentrée sur biomimétisme. Un parcours de formation aussi sera créé. Et puis, à la fin de l'année, une espèce de TEDx rural, une grande réunion pour une journée où des gens viendront passer des messages. Des messages qui leur tiennent à cœur, qui seront filmés, on espère, et diffusés ailleurs. Voilà, à peu près ce qu'est Territory Lab.
Je reviens sur vos propos. Vous disiez que le territoire du Diwa et des communautés de communes autour du Diwa étaient quand même remarquables par rapport à l'innovation. Vous avez enquêté au niveau national si effectivement c'était un lieu d'expérimentation et d'innovation ?
En fait, dans l'équipe de Territory Lab, on est sur les 6 personnes, on est 5 à venir au départ de l'extérieur de ce territoire et à s'y être implanté depuis quelques années, jusqu'à une dizaine d'années pour certains. Et nous, on avait tous entendu parler de la Biovallée avant de venir y vivre et de découvrir concrètement le territoire. C'est à partir de ce constat, de se dire dans la Biovallée, c'est un territoire sur lequel il a l'air de se passer beaucoup de choses. Donc on a, en fonction de nous, de nos parcours professionnels, de nos expériences, croisé plus ou moins des acteurs du territoire et repéré des acteurs qui mettent en place des choses innovantes et notamment dans le développement durable. Sachant aussi que le Territory Lab s'appuie aussi sur la dynamique Biovallée, donc ce qui est proposé en termes de conférences et de masterclass est soutenu par Biovallée et qui nous aide à diffuser auprès des acteurs locaux et aussi à les mobiliser pour pouvoir témoigner de ce qu'ils font.
Ce qui est peut-être assez exceptionnel sur ce territoire, c'est la concentration en fait, d'initiatives qui sont immonovantes parce qu'il y en a vraiment beaucoup et de tout type. Et c'est vrai que sur d'autres territoires, on peut avoir des choses, on peut avoir des vraies pépites, mais qui sont peut-être plus éparses, plus diffuses. Là, on a une véritable concentration, quoi. Voilà.
Il y a un cycle de 3 conférences plus 3 masterclass. La première s'est déjà déroulée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la thématique de la première ?
Alors, c'était autour de l'économie circulaire. Et donc, on avait notamment un intervenant, Emmanuel Druon, de l'entreprise Pocheco, qui se trouve dans le nord de la France, à Lille, et qui est venu témoigner de la transformation de son entreprise à partir d'une démarche autour de l'économie circulaire. Lui, il a repris cette entreprise qui était en très grande difficulté, à la fois financière, mais qui polluait énormément, qui avait beaucoup de mal-être au travail. Et il est venu partager son expérience, son vécu de cette transformation d'entreprise. Et il a pu, le lendemain, au niveau de la masterclass, échanger avec la vingtaine de structures locales qui étaient ici sur cette expérience et creuser certains aspects en fonction des questions des entreprises locales.
Pardon. Oui. En plus de ça, on a fait le choix dans chacune des conférences d'avoir à la fois un intervenant expert national, dont vient parler de Karine, comme Emmanuel Druon sur la partie économie circulaire, mais aussi d'intégrer des personnes ou des entreprises qui sont remarquables au niveau local sur ces questions-là. Et donc, pour l'économie circulaire, on a eu GPA qui recycle les automobiles accidentés. Qui a aussi témoigné de ce que faisait son entreprise. Et puis, on a eu la CCI Drôme qui est venue aussi sur cette partie-là.
Vous pouvez peut-être nous ramener quelques retours de ces deux journées, ce que ça peut enclencher sur l'économie locale.
Alors, ce qu'on peut dire peut-être dans un premier temps, c'est que notre intention vraiment, c'était de profiter de ces moments-là pour créer des espaces de rencontre entre les acteurs du territoire. Qui font des choses souvent chouettes, ou en tout cas qui ont des réflexions chouettes, mais qui se rencontrent pas nécessairement beaucoup. C'était notre ambition, et c'est ce qui s'est passé, tant lors de la conférence où il y a eu des moments d'échange conviviaux, et aussi des découvertes de pépites territoriales, comme par exemple GPA, que lors de la masterclass, et dans la mesure où il y avait des structures qui se sont retrouvées en ayant des problématiques similaires, en particulier lors de la masterclass. Il y a aussi des liens qui se sont créés. Par exemple, il y avait plusieurs structures d'accueil, plutôt orientation écologique sur le territoire, qui ont échangé, qui ont vu qu'elles partageaient des problématiques, qu'elles avaient tout intérêt à travailler ensemble et à échanger sur ces sujets-là. Il y a eu des structures plus entre guillemets industrielles comme Giants et l'Herbier du Diwa aussi qui ont communiqué ensemble et ont vu qu'il y avait des choses à partager. Donc voilà, un des premiers effets, c'est surtout ça, c'est la rencontre la rencontre et se rendre compte qu'on peut faire des choses ensemble pour avancer.
Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voit que les regroupements des entreprises en petits sous-groupes lors de cette masterclass, elle s'est faite effectivement soit plutôt par type d'activité. Donc on avait un petit groupe où voilà, les gens pouvaient se regrouper comme ils le souhaitaient. On a un petit groupe qui a réuni par exemple les Amanins, le monastère de Sainte-Croix et le Martouret, donc du coup qui ont pu échanger sur des problématiques spécifiques à leur métier. On a eu, par exemple, l'Herbier du Diwa et Giants qui sont plutôt un rapprochement territorial et sur des problématiques notamment de logistique, de transport. Mais on a eu aussi des surprises comme GPA qui s'est retrouvé avec le WIP Fab Lab et qui lui a donné plein de perspectives parce que lui, il est en train de revoir complètement son usine et il pensait détruire des bâtiments. Et du coup, ça lui a donné l'idée peut-être de pouvoir mettre en place un espace de coworking au sein de son entreprise pour ouvrir aussi l'entreprise sur d'autres activités à l'extérieur et permettre peut-être à certains de ses salariés qui, en fin de vie professionnelle, n'ont peut-être plus la force physique pour faire du déplacement de pièces d'auto, de développer leur propre projet, mais en restant accueillis au sein de son entreprise.
Je reviens sur le GPA, à Livron, je crois. Quel a été son développement de cette entreprise par rapport au recyclage de l'automobile? Qu'est-ce que ça a amené en emploi ou en apport économique? Vous pouvez peut-être rester dans les généralités, mais est-ce que vous avez quelques informations là-dessus?
Alors moi, je dois avouer que j'ai plus du tout ça en tête. Peut-être Karine, toi, tu aurais ça en tête, mais...
En fait, il nous a relaté un petit peu son récit de vie, mais qui est le récit de vie aussi d'une famille, parce que ses grands-parents, qui étaient au départ chiffonniers, qui ont commencé une petite activité de recyclage d'un certain nombre de choses, et puis petit à petit se sont mis à recycler les automobiles. Et il a entamé toute une démarche pour que son entreprise soit la mieux intégrée possible dans le territoire. Et notamment, là, il a le projet de recouvrir une grande partie de ce qui sert de parking aux épaves de voitures, de panneaux photovoltaïques. Et il engage à côté de ça toute une réflexion justement sur le bien-être des travailleurs. Et lui, ce qu'il... le message qu'il faisait passer, c'est qu'il ne veut pas que l'usine soit un lieu de souffrance, mais plutôt un lieu de vie. Et voilà, il est dans ces réflexions-là, par exemple.
Oui, et ce qu'il est en train de développer, par exemple, typiquement sur les panneaux voltaïques, aussi, ça l'invite à réfléchir à sa relation au territoire. Parce que cette énergie-là aussi, elle peut être utilisée par le territoire. Et donc, il y a un tissage qui se fait aussi à ce niveau-là.
Et il est dans une phase de développement puisqu'il envisage une création d'emplois assez importante sur l'année qui vient au niveau de Livron. Et il nous relatait aussi la difficulté qu'il avait à recruter des salariés, qu'il avait en permanence 5 ou 6 postes ouverts et qu'il avait besoin de communiquer aussi le métier de recycler des voitures qui fait peut-être pas rêver, en fait, de montrer que ça peut être un environnement de travail qui peut être au contraire plutôt plaisant et une entreprise on dirait que c'est des activités plutôt sales, mais en fait, là, lui, il envisage d'une autre façon et de faire en sorte qu'au contraire, ça soit une activité plutôt propre et plutôt bien intégrée au territoire.
Il a vraiment eu, depuis le départ, c'est l'esprit chiffonnier, en fait, l'envie d'utiliser toutes les matières qui ressortaient. Il a ce souci, comme le disait aussi Emmanuel Druon, de ne pas laisser de traces dans l'environnement de son activité. Et voilà, donc il a développé beaucoup d'ingéniosité pour faire ça au sein de son entreprise. Et il continue.
Est-ce qu'il a retenu votre attention sur GPA, c'est sa démarche à l'encontre de l'écologie ?
Alors là, puisque c'était le thème de la première, du premier opus de Territory Lab autour de l'économie circulaire, donc c'est vrai que c'était beaucoup axé sur la question des déchets, du recyclage, mais aussi d'améliorer les systèmes de logistique, de transport, des choses comme ça. Et là, il est très intéressé pour participer au deuxième opus qui aura lieu début juillet, plutôt autour justement de la réinvention du travail et des lieux de travail et des modalités de travail. Effectivement, la première entrée était plutôt sur le domaine vraiment écologique et tout ce qui touche au recyclage. Et là, on va toucher plutôt à l'interne de l'entreprise, comment on travaille, quelles sont les nouvelles modalités qui sont beaucoup moins hiérarchiques, etc.
Donc, on va arriver sur le deuxième cycle, conférence et masterclass, et qui est intitulé « Réinventer les organisations ». Alors, qu'est-ce qui vous a incité à penser ce titre ?
En fait, c'est que notre société est face à des défis importants, qui sont des défis environnementaux, mais aussi des défis sociaux, et on voit bien qu'il y a de plus en plus de mal-être dans un certain nombre de milieux de travail. L'économie capitaliste a enclenché un certain nombre de pratiques qui sont essentiellement liées à une hyper-productivité, une hyper-compétitivité. Mais aujourd'hui, ça nous amène face à des enjeux sociétaux qui sont importants. Et il nous semble que c'est important aujourd'hui que les entreprises elles réfléchissent à leurs activités, mais aussi aux modalités de mettre en œuvre leurs activités. Effectivement, que le travail ne soit pas un lieu de souffrance auquel on n'ait pas envie d'aller, mais que ça puisse aussi permettre une certaine émancipation individuelle, mais aussi un apprentissage de la coopération, une prise de confiance en soi, tout un certain nombre d'aspects qui dépassent la vision du travailleur à la chaîne qui applique des directives qui lui viennent d'en haut sans trop comprendre ce qu'il fait et quel est le but de son travail. Par rapport à ça, y a des courants très anciens d'économie sociale et solidaire, donc ont plus d'un siècle et demi, qui se sont déjà attachés à réfléchir à d'autres façons de faire de l'économie et des activités économiques. Et puis, plus récemment, dans les années 2010, il y a un autre courant des entreprises libérées, donc qui potentiellement s'inscrit toujours dans le capitalisme, mais qui cherche justement à trouver d'autres formes de travail, d'autres régulations sociales au sein de l'entreprise.
Pour ça, il y a le secteur que vous occupez et puis les entreprises qui sont intéressées par cette démarche. Mais face à vous, il y a aussi les institutions telles que Pôle emploi, qui est peut-être sclérosée dans cette perspective d'emploi.
Bah, c'est sûr que ces courants-là, ils sont récents et justement, on commence à en entendre parler depuis une petite dizaine d'années seulement. Et donc, ça n'a pas encore effectivement atteint les institutions. Et elles ne comprennent pas forcément comment fonctionnent ces entreprises parce que ça sort des schémas très hiérarchiques avec des dirigeants, avec des horaires très fixes et beaucoup de procédures. Donc, c'est sûr que les institutions, elles ont aussi beaucoup à apprendre de ces nouvelles formes de travail, à la fois pour mieux accompagner les travailleurs et les entreprises et puis peut-être pour évoluer elles aussi. Et il y a un certain nombre, en Belgique par exemple, il y a un certain nombre de ministères et d'institutions qui ont intégré dans leur pratique directement justement des modalités de travail qui s'inspirent des courants des entreprises libérées et qui sont plus axées sur la coopération et l'autonomie des individus.
Donc, il va y avoir réinventé les organisations. Ça sera aussi à l'adresse des entrepreneurs, mais aussi de particuliers.
Alors, on peut distinguer les deux événements qui vont être organisés. Il y a le premier événement qui est la conférence qui aura lieu le 5 juillet au soir à partir de 18h30. Et là, c'est une conférence qui est ouverte à tout public. L'idée, c'est vraiment de donner accès à toute personne qui s'intéresse à ce sujet, à de l'information et à des témoignages sur des expériences qui ont déjà eu lieu ailleurs. La conférence qu'on organise là n'est pas une conférence magistrale, hein. On est vraiment sur du témoignage, sur du vécu d'entreprises, de personnes qui ont mis ça en place dans des entreprises et qui le vivent encore. Voilà, avec les problématiques qui sont rencontrées, les joies et les difficultés. Et ça, bien sûr, c'est ouvert à qui s'intéresse au sujet. Et c'est sur participation, non pas consciente, mais libre, voilà. Voilà, c'est tout à fait ouvert. La masterclass, elle est vraiment plus destinée à des organisations professionnelles qui souhaitent, qui sont déjà mises en mouvement sur cette question-là, qui se posent des questions, pour certaines qui ont déjà mis des choses en place et qui souhaitent aller plus loin, et qui souhaitent bénéficier à chaque fois, à la fois du témoignage de celui qu'on appelle l'expert national, hein, qui sera Mehdi Berada, qui a été directeur de Poult, qui est une des entreprises qui est vraiment reconnue dans ce domaine-là, et à la fois des témoignages des autres entreprises qui ont aussi réfléchi sur ces questions. Voilà.
On peut peut-être parler un peu plus de cette personne et de son entreprise. Quelle activité a-t-il développé et quelle démarche propose-t-il aussi?
Poult, c'est une entreprise qui a, je crois, 1200 salariés maintenant, qui fabrique des biscuits. En fait, cette entreprise, elle est très mal. Et elle a été reprise par une personne qui est venue avec un esprit différent et qui s'est dit, mais si on veut remonter cette entreprise, en fait, il faut faire participer l'ensemble des salariés et mobiliser l'ensemble des salariés, quoi. Et donc, il a proposé un mode d'organisation complètement différent qui s'inscrit dans le mouvement des entreprises libérées, où l'idée est de donner la possibilité aux personnes qui sont entre guillemets sur le terrain de réfléchir et de prendre des décisions sur les sujets qui les préoccupent et qui les impactent directement. Et donc d'éviter dans ce sens-là les procédures hiérarchiques qu'on connaît de façon classique, où on met parfois en place des démarches participatives, mais où au final c'est toujours le grand chef qui décide, quoi. Voilà. Donc une démarche pour donner plus d'autonomie à toutes les personnes qui constituent l'entreprise, d'en haut jusqu'en bas, si on peut dire ça comme ça, puisque c'était organisé de façon pyramidale, en tout cas à l'époque. Voilà. Et ça a très bien marché.
Et qu'est-ce qui intéresse alors les employés dans cette entreprise? Est-ce qu'on peut résumer un peu ce que cherche l'employé dans son bien-être dans l'entreprise?
Les principes qui sont posés, souvent c'est déjà d'essayer de proposer, de laisser aux salariés la possibilité d'occuper les rôles qui lui correspondent le mieux. Et donc en fonction aussi de sa personnalité, de ses motivations, mais aussi de ses contraintes, parce que tout au long de notre vie, on n'a pas forcément les mêmes contraintes, les mêmes envies, la même disponibilité pour son travail. Et donc du coup, déjà, c'est ça, c'est de prendre en compte l'individu, à la fois dans ce qui le motive, ce qui lui plaît, de lui permettre d'accéder aux rôles qui correspondent le plus à ça, mais aussi d'organiser concrètement son travail au quotidien de façon assez autonome pour pouvoir intégrer ses propres contraintes et puis et laisser la possibilité. Un jour, on a l'énergie, on a l'envie, on va peut-être travailler plus. Et puis un jour où, au contraire, on sent qu'on n'est pas bien dedans, se dire ce jour-là, je vais moins travailler. Et donc avoir de la flexibilité, mais qui vient vraiment de l'individu. Et ce n'est pas l'entreprise qui va guider la flexibilité des gens. Là, elle vient plutôt du travailleur lui-même. Et puis l'enjeu, c'est justement d'essayer de sortir... De l'affectation d'un statut de travailleur qui soit déconnecté de la personne humaine et donc du coup de se dire le travailleur quand il vient travailler il reste un individu à part entière et avec sa personnalité et du coup c'est de pouvoir intégrer ça dans l'entreprise à la fois du coup dans chaque poste de travail mais aussi dans le mode de relation avec les collègues et donc du coup d'essayer de mettre en place des processus où il y a beaucoup plus de dialogue et de coopération entre les travailleurs.
Donc cette démarche au sein de l'entreprise nécessite du temps et ce temps est déjà calculé dans le projet de l'entreprise pour développer ce mode de fonctionnement.
On ne peut pas dire qu'il y ait deux cas qui se ressemblent sur le sujet parce que en règle générale, les entreprises qui commencent à se lancer dans ce mouvement-là, déjà, elles n'ont pas la même impulsion les unes et les autres. Certaines, ça peut être parce qu'elles ont envie de booster l'innovation chez elles et que du coup, mettre en place ce type de management est un booster d'innovation à tous les étages. Voilà. D'autres vont avoir plus envie de donner plus d'autonomie. Avec une envie d'allier de façon plus fluide les deux termes que sont la liberté dans l'entreprise et puis aussi la responsabilité au niveau de chacun, au niveau de chaque poste. Enfin, on peut avoir vraiment des impulsions qui sont très très différentes et puis on se rend compte aussi que il y a certains managers ou il y a certains dirigeants qui vont décréter que leur envie c'est vraiment ça et puis il y en a qui vont lancer un petit truc et puis petit à petit ça va cheminer dans la tête des gens et puis petit à petit il y a d'autres propositions plus larges qui vont venir mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ceux qui ont en tête de s'inscrire dans un mouvement de libération, on va appeler ça comme ça même si j'aime pas trop ce terme ils savent qu'ils en ont pour un petit bout de temps, plusieurs années, parce que c'est un vrai changement de culture, un vrai changement de posture aussi, à la fois de l'encadrement, des dirigeants, et aussi des personnes, je ne sais pas trop comment les nommer d'ailleurs, des collaborateurs qui sont dans le cadre d'une industrie sur les chaînes de production, ou voilà, des gens qui font quoi, voilà. C'est un vrai changement de posture. Donc, un changement de culture, et donc il faut du temps. Plusieurs années, ouais. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit.
Sickness.
Karine, en début d'émission, tu parlais des méfaits du capitalisme sur le mode du travail, le monde du travail. La démarche qui est proposée par Territory Lab est donc une des alternatives à cette politique du libéralisme à court terme.
Le projet du Territory Lab, avant tout, c'est amener effectivement les entreprises à se positionner différemment que ce qu'a amené le capitalisme ultralibéral, notamment depuis les années 70-80, avec une financiarisation et du coup une volonté de rentabilité du capital à très court terme. On voit que ça apporte des maux très forts à la société, tant sur le plan environnemental que sur le plan social. Et nous, on a cherché à voir quelles sont aujourd'hui les portes d'entrée pour une entreprise pour réfléchir à ces questions-là et peut-être se positionner différemment et évoluer elle-même aussi dans la compréhension qu'elle a de son rôle dans la société. Donc ces questions vraiment liées au travail, voilà, le capitalisme, il a fait un tour de passe-passe finalement en transférant la question de la valeur qu'on donnait au travail concret, où les gens avaient un métier, des compétences, étaient reconnus par leur père et qui travaillaient avec des communautés de métiers, et a fait passer finalement l'idée que ce qui était important, c'est pas le travail concret qu'on réalise, mais ce qui était important, c'était d'être travailleur, quel que soit le travail qu'on fasse. Et ça répondait aux besoins du capitalisme, de pouvoir mettre des gens derrière une chaîne à répéter des centaines de fois le même geste, et du coup il n'y avait plus d'intérêt au travail en lui-même. Et nous, ce qu'on essaye à travers le Territory Lab, c'est de voir que les entreprises, elles peuvent reproposer un sens au travail, à la fois dans les activités qui sont déployées, mais dans la manière de déployer ces activités, et redonner finalement du sens au travail concret pour le travailleur, et puis du sens à l'entreprise qui n'a pas pour unique but de faire profiter les apporteurs de capitaux, mais qu'elle a aussi un autre rôle dans la société. En tout cas, elle peut le jouer. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à leur rôle social, sociétal. Et c'est évidemment ces entreprises-là qu'on cherche à faire travailler ensemble, à faire se rencontrer, parce que c'est aussi dans l'échange qu'elles peuvent elles-mêmes évoluer et enrichir leurs réflexions, et puis petit à petit mettre des pratiques en œuvre.
Je reviens sur Pocheco, qui est une entreprise qui a été reprise en difficulté, Poult aussi, par exemple. Quel a été l'investissement de ces entreprises pour réorganiser ou réinventer son organisation ?
Dans le témoignage d'Emmanuel de Ronde, Pocheco, lui, ce qu'il nous a indiqué, c'est que quand il a repris cette entreprise, pour permettre justement une modification complète du fonctionnement de l'entreprise et faire en sorte qu'elle ne laisse plus de traces sur le territoire, aussi bien au niveau du sol, de l'environnement, mais aussi au niveau des travailleurs et de la souffrance qu'ils pouvaient avoir auparavant, il nous a bien dit que quand ils ont enclenché ce processus-là, il était clair qu'ils ne recherchaient plus de profit du capital apporté, parce que les excédents de l'entreprise étaient réinvestis justement dans de l'aménagement de l'usine, et puis dans l'accompagnement aussi des salariés dans ce processus-là. Après, moi, sur Poult, je ne connais pas...
Moi,
je
n'ai pas creusé non plus le sujet, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'entendre Mehdi sur le sujet.
Ce cycle de conférences se déroule à l'écosite de Heure, on est d'accord, sous l'égide de BioVallée.
Alors BioVallée est partenaire en fait de ce projet. Le projet Territory Lab, il est né plutôt de porteurs de projets qui se sont rencontrés, qui avaient un certain nombre de valeurs communes et d'envies partagées autour du monde de l'entreprise et autour de la volonté de pouvoir créer plus de croisements aussi entre les entreprises et les associations, et puis avoir plus ce mélange de cultures. Et BioVallée, a trouvé le projet intéressant et le soutient dans le sens qu'elle diffuse l'information, mais elle aide aussi potentiellement à mobiliser des acteurs, à en identifier davantage sur le territoire que ce que nous, on peut faire à travers nos propres activités, notre propre connaissance du territoire.
Alors, ça concernait principalement les entreprises, cette proposition, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est les collectivités locales, est-ce qu'elles sont à toucher là-dessus aussi, sur ce mode de réorganisation ? Et est-ce que vous avez des prises de contact de certaines de ces collectivités ?
Alors, en France, moi, je n'ai pas connaissance, en tout cas là, sur le territoire, de collectivités locales, ben, peut-être à part Saillant, justement, qui mettent en place, je pense, d'autres processus et qui est beaucoup moins hiérarchique et qui est plus, peut-être, sur la recherche, justement, d'affectation de rôle en fonction des motivations des individus. Sinon, voilà, moi, après, je sais qu'en Belgique, il y a un certain nombre, où le ministère des Transports, par exemple, qui faisait fuir tous les fonctionnaires, personne ne voulait y travailler, donc ils ont vraiment travailler à changer la manière de travailler, de considérer les travailleurs au sein de ce ministère. Et aujourd'hui, au contraire, ils veulent tous aller y travailler. Donc ça porte vraiment ses fruits. Après, sur le territoire, ben, sur la première conférence masterclass, il y avait un représentant de la CCVD qui était là, du service économique. Donc je pense que lui, ça l'intéressait à la fois de découvrir les entreprises du territoire qui venaient se questionner et échanger autour de ces enjeux-là. Et puis qui sait, ça va peut-être les inspirer aussi pour leur propre fonctionnement. Et on voit que c'est un territoire où les collectivités, elles ont tout intérêt à travailler mieux en coopération entre elles, mais aussi certainement au sein de leurs services. Et c'est un des enjeux de faire évoluer le mode d'organisation d'une entreprise, d'une collectivité, d'une association. C'est aussi de replacer davantage de coopération et de dialogue entre les gens.
Et si on parle d'organismes publics, alors moi, je n'ai pas fait du tout de recherche sur le sujet, mais en revanche, je suis au courant de plusieurs expériences qui sont menées en ce moment, en particulier au niveau de certaines caisses primaires d'assurance maladie, au niveau régional, pour ce qui est de Rhône-Alpes, ou sur Carcassonne, où il y a des choses qui ont été assez bien avancées, en fait. Voilà, donc on est encore dans un autre monde que dans le monde des entreprises.
En quelque sorte, une mutation du monde du travail qui est en cours et dans ses balbutiements, peut-être ?
Certainement. Et ce qu'on peut dire là-dessus aujourd'hui, c'est qu'on ne peut que rester humble par rapport à tout ça. Comme le disait Karine tout à l'heure, on a peu de recul finalement par rapport à toutes ces nouvelles pratiques. Ça date des années 2010 à peu près. Donc autant dire qu'on n'a pas 50 ans de recul sur ce qui s'est passé. Et donc il faut rester très humble sur ce que ça apporte. Il y a des effets très positifs qui sont nommés et qui sont très bien racontés par des personnes qui ont écrit soit des livres dessus ou fait un certain nombre de conférences sur ce sujet-là. On pourrait parler de Frédéric Laloux qui a écrit « Réinventer les organisations » ou Isaac Gates qui a écrit « Liberté et compagnie » et qui a enregistré un certain nombre de vidéos qu'on peut voir sur YouTube sans aucun problème. Maintenant, il y a aussi beaucoup de faces d'ombre hein, sur ces processus et sur ces processus de libération. On commence à parler, par exemple, de burn-out de générosité avec des personnes qui ont tellement envie de faire pour leur entreprise qu'il n'y a plus de limite et que, ayant perdu tout repère par rapport aux limites de leur rôle, etc., elles veulent surinvestir en fait et on arrive sur des burn-out qui sont inédits, très différents des burn-out de perte de sens, par exemple, qu'on connaît jusqu'alors. Donc voilà.
Ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est pas là pour vendre un modèle, et un modèle unique, ça n'existe pas. Et donc, c'est plutôt de se dire, il y a des entreprises qui essayent des choses alternatives au système classique de capitalisme dominant. Ça a été vrai, et ça l'est toujours pour l'économie sociale et solidaire. Et ça fait plus d'un siècle et demi que des formes d'organisation différentes se mettent en place. Mais sachant que l'économie sociale et solidaire a plutôt travaillé sur un rapport différent à la propriété au profit. Là, on est sur un rapport différent au travail, mais qui ne remet pas forcément en question la propriété et le rapport au profit, même si ça vient forcément le nuancer, parce que quand on s'attache à la qualité du travail et au bien-être des salariés, forcément, à un moment donné, ça vient aussi questionner la profitabilité du capital qui se fait souvent aux dépens, justement, des conditions de travail et du bien-être au travail. Mais voilà, on n'est pas là pour exposer un modèle, et c'est pour ça qu'on choisit plutôt des formats où on demande aux gens de venir faire un récit de ce qu'ils ont vécu, et pas uniquement vendre le côté doré, mais être aussi capable d'évoquer les difficultés, les freins qu'ils ont trouvés. Et puis, on se dit que c'est juste justement dans ces échanges, dans ce dialogue-là, que chacun trouve la manière aussi elle-même d'évoluer, de progresser dans ses démarches et puis anticiper peut-être certaines difficultés, certains freins pour y mettre des limites.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce type de démarche implique très souvent un changement dans la structure même de l'organisation, de l'entreprise, la façon dont elle est structurée avec ses managers, les prises de décision, etc. Et un changement dans les postures de chacun, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et en particulier dans le rapport de domination qu'on peut avoir, donc le rapport dominant-dominé, auquel finalement on est assez habitué depuis qu'on est tout petit, parce qu'on vit ça à l'école, on vit parfois ça aussi dans nos familles, donc voilà. Donc on est en train de, en faisant ça dans les entreprises, on déstructure, en tout cas, c'est pas une reprogrammation, mais on déstructure un peu ce qui faisait loi jusqu'alors. C'est pour ça que c'est un changement de culture, et ça sort des murs aussi de l'entreprise, ce genre de démarche. C'est-à-dire que les personnes qui participent à ça, qui s'impliquent, qui s'engagent et qui rentrent dans ce mouvement-là, souvent ça les change. Vraiment. Et ces changements, c'est dans leur rapport au travail, à leur travail, mais c'est aussi dans la façon dont elles évoluent dans la société. Peut-être aussi que ça leur permet de prendre des responsabilités ailleurs, dans la société civile, ou en tout cas d'agir autrement avec leur famille, par des biais de communication qui sont un petit peu différents. Enfin, voilà. Ce qu'on constate, c'est que ça sort des murs de l'entreprise. Voilà. Parce que ça agit en profondeur sur la posture de chacun.
Par rapport au contexte économique au niveau national, est-ce que vous pressentez des écueils qui pourraient peut-être être sur le chemin de cette démarche que vous pratiquez ?
Là, dans l'actualité, il y a un projet de loi qui s'appelle la loi Pacte, qui est un projet qui devait avoir tout un volet sur la transformation des entreprises. Moi, j'espérais que dans ce projet de loi, il y ait vraiment des dimensions très fortes autour de la dimension sociétale des entreprises. Pour l'instant, pour suivre un petit peu les rapports préalables au projet de loi et puis les premiers échanges qu'il peut y avoir autour de ça, malheureusement, ça va pas aller très loin. Et finalement, en tout cas, les contraintes législatives et réglementaires vis-à-vis des entreprises vont rester très faibles. Et c'est pour ça que tout repose finalement sur du volontariat. Et on se dit quand même que plus les entreprises entendront parler de ce type de démarche et auront des témoignages de ce que ça produit au niveau des individus, mais aussi au niveau de l'activité de l'entreprise, au niveau de son image sur un territoire, etc. Et peut-être que ça donnera, que ça motivera de plus en plus d'entreprises pour s'engager dans des vraies transformations, puisque effectivement, ça ne viendra pas, en tout cas aujourd'hui, de la loi.
Si j'ai bien compris, y a un maître mot en ce moment, c'est viser le plus haut possible. Je parle de l'anecdote de Macron qui s'adressait à un adolescent hier, je crois, ou il y a 2 jours, qui disait « Ouais, il faut viser haut, très haut, hein. Premier de cordée, toujours. » Et est-ce qu'il y a cette notion dans cette démarche de Territory Lab ? Est-ce que c'est une démarche pour tous ou alors une démarche où tous pour un ?
Je crois qu'il y a vraiment tous les cas, en fait, parce que dans les entreprises qui engagent comme ça des transformations profondes, il y a à la fois des très grosses entreprises qu'on pourrait classer dans les premiers de cordée des entreprises. Voilà, on peut citer des entreprises comme Michelin, Decathlon, qui engagent des réflexions et des évolutions de pratiques au sein des entreprises. Je pense pas que fondamentalement ça change la nature de ces entreprises là et voilà, s'il peut y avoir un peu mieux-être pour les travailleurs, tant mieux, mais je pense pas que ça change le modèle de ces entreprises et l'inscription dans le modèle capitaliste. Mais par ailleurs, il y a tout un tas de petites entreprises et d'associations et qui mettaient déjà en œuvre un certain nombre de pratiques. Et sur le territoire, quand on regarde comment fonctionne un certain nombre de structures, on est déjà sur une vigilance par rapport au bien-être des salariés, sur une adaptation à leur rythme de vie, à leurs évolutions, à l'évolution de leurs envies, sur des démarches beaucoup plus coopératives où on va donner des espaces d'échange aux salariés, on va leur laisser de l'initiative, de l'autonomie. Voilà, donc Sur le papier, c'est à la fois porté et vendu par des gens qui sont plutôt inscrits dans des modèles de grosses entreprises, et c'est ceux qui sont valorisés, mais parce que c'est peut-être les plus emblématiques, qu'on a une très grosse entreprise avec des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés qui s'engagent dans des transformations profondes, et ben c'est sûr que ça marque un peu les esprits. Ça le fait moins quand c'est des petites structures avec moins de salariés, mais je pense que... Ces questions-là, de toute façon, elles doivent concerner tout le monde et pas forcément un seul modèle d'entreprise, et que c'est juste, et que c'est dans la multiplicité des expériences qu'on va aussi petit à petit affiner les façons de faire, et puis, comme le disait Céline, pouvoir remarquer les dérives potentielles aussi de ces systèmes-là et pouvoir les anticiper et mieux les travailler.
De toute façon, il y a déjà des grandes tendances qui clairement invitent à faire bouger le monde du travail aujourd'hui. Enfin, t'en as parlé, Karine, tout à l'heure, quand tu parlais de la souffrance au travail. En France, on a un taux record de désengagement des salariés, aussi dans les entreprises. De mémoire, la dernière étude de Gallup qui est sortie, c'était en 2016, sur l'engagement des salariés, disait que, en fait, dans les entreprises françaises, il y avait uniquement 9% des salariés qui étaient vraiment engagés, ce qui est complètement incroyable. Enfin, voilà, on peut imaginer dans ces cas-là pourquoi il y a des gens qui sont complètement débordés et qui font aussi des burn-out parce que ils portent en fait toute l'évolution. Enfin, voilà. Et donc on est sur un modèle qui aujourd'hui n'invite pas à s'engager. Et les entreprises, quelles qu'elles soient, elles ont quand même besoin de gens qui se sentent responsables de leur travail, qui participent, qui s'engagent et qui ne viennent pas là que pour pointer et gagner leur pain, quoi. Voilà. Même si ça peut être déjà honorable de faire ça.
Est-ce que la conscience professionnelle, ça s'apprend? Est-ce que ça peut être enseigné dans une entreprise?
Je pense que c'est plutôt l'environnement de travail qui l'enseigne, c'est-à-dire que c'est pas des cours sur la conscience professionnelle, mais quand on est dans une entreprise où l'activité réalisée par l'entreprise a du sens, la manière de le faire a du sens, la manière d'occuper son poste, sa fonction sans l'entreprise a du sens, ben forcément je pense qu'on gagne de la conscience professionnelle, on a envie de bien faire son travail parce qu'on sait à quoi il sert, on comprend dans quoi il s'inscrit. C'est sûr que si une entreprise, son seul objet, sa seule finalité, c'est la profitabilité du capital et qu'on découpe tout en micro-tâches, on trouve ni de sens dans l'absolu au travail qu'on fait, parce que c'est continuer à enrichir ceux qui ont apporté de l'argent, et ni de sens concret dans ce qu'on fait, parce qu'on fait un tout petit bout d'activité qu'on n'arrive pas à relier à d'autres choses. Donc moi je pense plutôt qu'elle vient justement de la pratique, la conscience professionnelle, et c'est pas quelque chose qu'on va inculquer aux gens dans leur tête avant d'entrer dans l'entreprise, mais c'est plutôt l'entreprise qui permet de développer ça.
Et inversement, ce que dit Isaac Gates dans une de ses vidéos, il dit... Quand vous embauchez une personne, vous l'embauchez parce qu'elle est motivée, a priori qu'elle a envie de faire ce métier-là, enfin qu'elle trouve du sens à faire ça. Et quand on voit qu'au final, au niveau global, on a un très fort taux de salariés qui sont désengagés, c'est bien qu'il se passe quelque chose au niveau de l'organisation qui provoque ça. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison qu'une personne qui arrive motivée au travail, au bout de quelques temps, est complètement désengagée et démotivée, voire met des bâtons dans les roues de ses collègues ou de la bonne marche de l'entreprise, quoi. Donc c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de l'organisation.
Une dernière question. Vous parliez tout à l'heure hors entreprise. Quelles sont les retombées hors entreprise de cette réorganisation ou cette réinvention de l'organisation au sein, par exemple, d'une commune ou d'un territoire, en prenant comme exemple Pocheco, par exemple, ou Poult?
Le témoignage de Pocheco, justement, sur l'aspect rapport à son environnement un peu institutionnel, c'était pas forcément un très bon exemple, parce que la commune sur laquelle il est implanté, finalement, regardait cette entreprise un peu avec des drôles d'yeux, et en tout cas, n'ont pas facilité du tout les transformations de l'entreprise. Donc la diffusion, elle n'est pas forcément évidente, immédiate au niveau des des institutions, des administrations qui connaissent pas ces modèles-là et qui sont n'ont pas forcément du coup les comportements adaptés en face et notamment voilà. J'ai l'exemple d'entreprises qui voulaient par exemple partager la représentation des délégués du personnel, faire une rotation pour que chacun des salariés puisse à un moment donné avoir cette responsabilité, voir ce que c'était que ce rôle-là. Et bien là, l'administration ne le permet pas, il faut un nom, un unique nom et qu'on ne peut pas le changer. Donc, donc la diffusion aujourd'hui au niveau des institutions, elle est très faible, même si voilà, on sait que dans les cycles justement d'évolution des pratiques, ça vient d'abord d'un milieu alternatif qui reste au départ anecdotique et puis petit à petit on va passer de l'alternatif à des choses un peu plus institutionnalisées qui vont faire perdre de temps en temps du côté alternatif, mais on aura quand même gagné un pas et puis il y a de nouveau d'autres démarches alternatives et petit à petit l'institution va progresser dans ce sens-là. Après, ça diffuse par contre, comme le disait Céline, au niveau des individus. Et c'est vrai qu'un individu, et c'est Bernard Maris qui disait ça, l'entreprise, c'est soit le lieu d'apprentissage de la démocratie, parce qu'on est capable d'expliquer son travail, de l'argumenter, d'écouter ses collègues raconter leur travail, de pouvoir se positionner, etc. Et donc on apprend les bases de la démocratie, qui est l'écoute, l'argumentation, la construction collective. Où c'est le lieu justement d'apprentissage de la violence parce qu'on subit soi-même tellement de domination qu'on va avoir tendance à les reproduire. Donc nous, on fait quand même le pari de se dire que si on transforme le travail et les environnements de travail, il y a aussi une transformation de l'individu et en tout cas un certain apprentissage de la coopération, de l'écoute de l'autre, du respect des autres individus qui ne sont pas comme nous, qui ne fonctionnent pas comme nous, qui ne travaillent pas comme nous, mais de voir que finalement, ensemble, au sein d'une même entreprise, on peut quand même exprimer sa personnalité, son individualité, que ça peut très bien se passer, au contraire, produire des choses très satisfaisantes. Et moi, je me dis qu'au regard de la société, c'est aussi des choses qu'on a intérêt à faire vivre aux gens pour que dans la société, ils puissent aussi avoir envie de plus, davantage de coopération, d'intégration de la différence, plutôt que d'être dans des systèmes de domination.
Envie de se transformer en profondeur. Donc, comme je disais tout à l'heure, transformer la structure, transformer les postures individuelles. Donc, ça veut dire organiser des formations en interne, créer des espaces où les gens interagissent autrement, avoir des espaces d'intelligence collective aussi pour créer des lieux d'expérience du travailler ensemble autrement, quoi. Et puis aussi pour réveiller l'élan et l'énergie que chacun peut avoir et le sens qu'il peut donner à son travail. Voilà.
Et pour finir, Territory Lab a-t-il un site internet pour pouvoir consulter vos activités et voir même les programmes de vos futures conférences ?
Oui, Territory Lab a un super site internet qu'il faut aller voir. C'est territorylab.com, tout simplement. Hein, voilà.
Eh bien, Céline et Karine, merci d'être venues et donc je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. Okay, the bird.